Emmanuel Grossette, bonjour.
Bonjour.
Alors, avant de parler de notre sujet d'aujourd'hui, est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots pour nos auditeurs?
Alors, je suis géographe indépendant. Je travaille sur les diagnostics territoriaux en lien spécifiquement avec l'économie circulaire et depuis une dizaine d'années, dans le Var et en région Rhône-Alpes.
Alors, on va parler avec vous d'écologie intégrale et plus exactement de l'association dont vous êtes membre, la DOT aussi en action.
Alors, cette émission est préparée par le groupe Laudato Si en action du diocèse de Fréjus-Toulon, qui a été créé à l'initiative de Monseigneur Rey à la suite de la conférence des évêques de France en novembre dernier. Nous vous proposons 10 interventions pour tâcher de comprendre l'urgence d'une conversion écologique vécue de manière heureuse en communauté, au cœur de nos paroisses, de nos groupes et finalement dans tous nos états de vie. 10 interventions qui nous permettront de réfléchir sur l'encyclique chapitre après chapitre avec l'éclairage de personnes engagées dans l'Église. L'objectif de ces rencontres est certes un apport théorique sur cette encyclique, mais au-delà de cela, de vous permettre, chers auditeurs, de réagir sur ce qui vient d'être dit. C'est finalement ce dialogue que nous espérons fructueux entre vous et les animateurs qui vont présenter tout au long de cette année ces chapitres. Parmi eux, Monseigneur Rey, évêque de Fréjus-Toulon, Elena Lassida, théologienne, sociologue, professeure à l'Institut catholique de Paris, Fabien Revol, théologien spécialiste de la théologie de la création, mais également Marie-Hélène Lafarge, cofondatrice des Altercato et engagée dans la démarche Laudato Si en action, Étienne Villemain, engagé dans les Ecohamo solidaires, Laura Morosini, chargée de projet Église verte et des chrétiens unis pour la terre, Raphaël Cornuthénard, architecte, père de 5 enfants, fondateur d'Annunzio, et bien d'autres encore, qui nous feront entrer dans le mystère de la création et dans notre responsabilité vis-à-vis d'elle. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous propose aujourd'hui un bref contexte présentant Laudato Si. Cette encyclique commence à être connue, mais qui se souvient de sa genèse? C'est la première encyclique du pape François. Les premiers pas sont toujours très remarqués et c'est le 17 juin 2015 que le pape signe ce premier pas afin de réconcilier la sauvegarde de l'homme et la sauvegarde de la nature, jadis très souvent mise en opposition. Dans ces lignes, le pape nous rappelle nos obligations envers la nature qui font partie de la foi chrétienne. Comme d'ailleurs, pour certaines autres religions telles que l'hindouisme, l'islam ou le bouddhisme. Cette encyclique a ensuite été très médiatisée à l'occasion de la COP21 en avril 2016, où 175 pays réunis au siège des Nations Unies ont signé l'accord de Paris pour le climat afin de contribuer au débat démocratique mondial. C'est là que s'est démocratisé le terme d'écologie intégrale. Mais cette encyclique n'est pas une invention propre au pape François. Elle s'inscrit dans les pas de ses prédécesseurs, ceux qu'hélas ignorent beaucoup des catholiques. En effet, la thématique de l'écologie, qui est devenue centrale au sein de notre société, pourrait nous faire croire que l'Église ne parlait jamais d'écologie, laissant les catholiques quasi indifférents à ce sujet. Dès l'introduction, le pape François évoque l'apport de ses prédécesseurs. En effet, il est surprenant que les papes, dès la fin du XIXe siècle, parlent d'écologie et alertent sur les conséquences du comportement de l'homme à l'égard de la planète. C'est le pape Pie XII qui commença au sortir de la guerre. Il appelait cela le gaspillage des ressources. Le 15 novembre 1946, lors du congrès de la Confédération nationale des agriculteurs italiens, le pape Pie XII pointait les menaces et les péchés contre la terre. Je cite « Continuant l'œuvre du péché de nos premiers parents et les péchés actuels de l'humanité entière ont toujours fait peser la malédiction sur la terre. Frappés successivement par tous les fléaux, déluges, cataclysmes terrestres, miasmes pestilentiels, guerres dévastatrices, le sol en est devenu en certaines contrées désert, stérile et malsain. La terre alors est la grande blessée, la grande malade. » Paul VI s'exprime devant les institutions internationales et alerte déjà sur les problèmes écologiques. Il fait le lien entre l'écologie et la nécessité de changer notre style de vie. En 1970, lors du discours devant la FAO, la Food and Agriculture Organization, cette instance de l'ONU chargée de défendre l'agriculture et l'accès à l'alimentation, le pape pointait du doigt les effets des retombées de la civilisation industrielle qui risquait de conduire à une catastrophe écologique. Déjà, à cette époque, le pape parlait de catastrophe écologique. Cela était prophétique. Et il appelait, je cite, à un changement radical dans le comportement de l'humanité entière. En 71, dans le contexte du développement de la société industrielle, il évoquait encore cette crise écologique dans un document où il dénonçait l'utilisation inconsidérée de la nature par l'homme et, par voie de conséquence, du risque de la détruire et d'être, à son tour, victime de cette dégradation. Le pape réitérait le 9 avril 1974 son alerte dans son message à l'ONU sur les matières premières et l'environnement, en dénonçant le gaspillage des biens et en encourageant un style de vie plus sobre. Déjà à cette époque, le pape Paul VI évoque la nécessité d'adopter un nouveau style de vie et le lien avec la crise écologique. Je cite « Nous faisons appel aux pays développés afin qu'ils fassent de plus grands efforts pour renoncer à leur propre profit immédiat et pour adopter un nouveau style de vie qui exclura à la fois une consommation excessive et les besoins superflus qu'ils sont souvent créés artificiellement par une petite portion de la société en quête de richesse. De même, rajoute-t-il, il ne faut pas oublier qu'un style de vie fondé sur une consommation toujours plus grande a des effets nocifs sur la nature et l'environnement, et finalement, sur la trempe morale de l'homme lui-même et spécialement de la jeunesse. » Fin de citation. En 1977, dans son message pour la Journée mondiale de l'environnement, Paul VI plaidait toujours pour un style de vie plus sobre. Par son objectif, un tel appel demande non seulement un nouvel effort, mais un changement radical de mentalité, une réelle conversion dans les attitudes et les comportements. Cela est plus facile à dire qu'à faire. En clair, le riche doit accepter de consommer moins et de partager plus largement les biens de cette terre, les riches étant bien sûr les pays du Nord dont nous faisons partie. Il demande un style de vie simple et une société qui conserve intelligemment plutôt que de consommer inutilement. Il demande enfin un esprit universel de solidarité où chaque personne, chaque nation joue son rôle propre pour assurer aux hommes d'aujourd'hui et aux générations à venir un environnement écologique sain. Le pape Jean-Paul II est aussi appelé le théologien de l'écologie. car dès le début de son pontificat, dans sa première encyclique Redemptoris Hominis en 79, il évoque l'écologie. Et il ne cessa alors de développer ce thème durant son pontificat. Il dénonçait la dilapidation des biens, évoque un drame pour l'homme. Je cite, « Tout en soumettant l'homme aux tensions qu'il crée lui-même, tout en dilapidant à un rythme accéléré les ressources matérielles et énergétiques, tout en compromettant l'environnement géophysique, ces structures font étendre sans cesse les zones de misère et avec elles la détresse, la frustration et l'amertume. Nous sommes ici en face d'un drame dont l'ampleur ne peut laisser personne indifférent. » Fin de citation. En 1990, lors du message pour la Journée mondiale pour la paix, le pape Jean-Paul II fait l'éloge de l'écologie avec un titre évocateur, La paix avec Dieu créateur, la paix avec toute la création. Je cite, face à la dégradation générale de l'environnement, l'humanité se rend compte désormais que l'on ne peut continuer à utiliser les biens de la terre comme par le passé. Fin de citation. Il évoque aussi, dans le même texte, la notion de conscience écologique, qu'il appelle à soutenir et à développer. Je cite, on assiste ainsi à la formation d'une conscience écologique qu'il ne faut pas freiner, mais favoriser, en sorte qu'elle se développe et mûrisse, en trouvant dans des programmes et des initiatives concrètes l'expression qui convient. Fin de citation. Il convient d'ajouter que l'on ne parviendra pas à un juste équilibre écologique si l'on ne s'attaque directement aux formes structurelles de la pauvreté existant dans le monde entier. Par exemple, la pauvreté rurale, la répartition des terres ont conduit dans de nombreux pays à une agriculture de simple subsistance et à l'appauvrissement des sols. Quand la terre ne produit plus, de nombreux agriculteurs s'établissent dans d'autres zones, aggravant souvent le processus de déforestation incontrôlée, ou bien s'installent dans des centres urbains déjà dépourvus d'infrastructures et de services. Ensuite, en 91, le pape Jean-Paul II, dans son encyclique Sanctissimus Annus, fait le constat que les chrétiens s'engagent trop peu dans la défense d'une écologie humaine authentique. Selon Jean-Paul II, toute volonté de protéger ou d'améliorer le monde suppose de profonds changements dans les styles de vie, les modèles de production et de consommation. Benoît XVI, plus récemment, lors de différents discours et dans l'encyclique Caritas in Veritate, invoque lui aussi la question écologique. Il met l'accent sur le rapport entre l'écologie et l'économie. En 2007, il affirmait devant le corps diplomatique, je cite, « d'éliminer les causes structurelles des dysfonctionnements de l'économie mondiale et à corriger les modèles de croissance qui semblent incapables de garantir le respect de l'environnement. » Fin de citation. C'est dans sa lettre encyclique Spes Salvi du 30 novembre 2007 que Benoît XVI présente le don de la création à accueillir et à protéger comme collaborateur du Créateur. Le terme de « maison commune » pour désigner la Terre apparaît dans le message de Benoît XVI pour la Journée mondiale de la paix en 2008. Dans son encyclique, Caritas in Veritate, il affirme que tout achat n'est pas seulement un acte économique, mais aussi et surtout un acte moral, ce qui inclut l'importance de notre manière de consommer, qui donc n'est pas anodine. Le pape Benoît XVI insiste sur le rapport entre croissance économique et la question environnementale, et selon lui, tout est lié. De même, le pape Benoît XVI établit un lien profond entre l'Eucharistie et la protection de la création. Je cite dans son exhortation apostolique post-synodale Sacramentus Caritatis, « La terre n'est pas une réalité neutre, une simple matière à utiliser indifféremment selon l'instinct humain. Non, la terre se place au cœur même du bon dessein de Dieu par lequel nous sommes tous appelés à être fils et filles dans l'unique Fils de Dieu Jésus-Christ. Les légitimes préoccupations concernant les conditions écologiques de la création en de nombreuses parties du monde trouvent des points d'appui dans la perspective de l'espérance chrétienne qui nous engage à œuvrer de manière responsable pour la sauvegarde de la création. Dans la relation entre l'Eucharistie et le cosmos, en effet, nous découvrons l'unité du dessein de Dieu et nous sommes portés à saisir la profonde relation entre la création et la nouvelle création inaugurée dans la résurrection du Christ, nouvel Adam. Fin de citation. Il ne faut pas oublier que chaque pape a encouragé la dimension œcuménique au sujet de l'écologie. Nous arrivons enfin au pape François, qui se réfère en effet à la contribution de philosophes et de théologiens catholiques, mais aussi orthodoxes, tels que le patriarche Bartholomée, mais également protestants, comme le français Paul Ricoeur, ou de mystiques musulmans, comme Ali al-Hawass. Le parcours que nous propose le Saint-Père est construit sur un plan très moderne, utilisé par toutes les grandes entreprises. C'est la méthode voir, juger, agir, avec une partie supplémentaire consacrée à l'éducation, la spiritualité et la célébration. Que peut-on dire de l'encyclique? Finalement, en filigrane, de très nombreux thèmes sont traités tout au long du texte. Par exemple, l'intime relation entre le pauvre et la fragilité de la planète, la conviction que tout est lié dans le monde, la critique du nouveau paradigme et des formes de pouvoir qui dérivent de la technologie, l'invitation à chercher d'autres façons de comprendre l'économie et le progrès, la valeur propre de chaque créature, la nécessité de débats sincères et honnêtes, la grave responsabilité de la politique internationale et locale, enfin, la culture du déchet et la proposition d'un nouveau style de vie. Alors, 5 ans après, malheureusement, ce texte n'a pas pris une ride, tant et si bien que le successeur de Pierre n'hésite pas à lui consacrer l'année 2020-2021, qui sera le prélude d'un programme de 7 ans pour en promouvoir sa mise en œuvre concrète et refonder concrètement notre maison commune. Allons au-delà des mots. Un programme est placé sous l'égide du dicastère pour le développement humain intégral, présidé par le cardinal Peter Turkson. Jamais, sans doute, une encyclique n'aura été aussi populaire, bien au-delà du périmètre catholique, suscitant de l'intérêt dans la sphère scientifique et universitaire, dans d'autres confessions chrétiennes et dans les milieux non-croyants. Le Saint-Siège travaille activement à préparer le monde d'après la pandémie, avec comme guide la fameuse encyclique, dont le pape a plusieurs fois dit qu'il s'agissait d'un texte social bien plus qu'écologique. Parler d'écologie intégrale nous rend sensibles aux cris de la Terre. Mais la Covid nous rappelle aussi la nécessité d'entendre le cri des pauvres, de tous ceux qui sont vulnérables, insiste le cardinal ghanéen. Au cours de l'une de ses rencontres qu'il a eues avec le pape François, ce dernier a demandé à préparer l'avenir. Non pas à nous préparer à l'avenir, mais le préparer à l'anticiper. Cette crise est une opportunité à ne pas gaspiller pour imaginer un monde meilleur. Récemment encore, le pape martelait ces mots. Je cite « Quel monde voulons-nous laisser à ceux qui viennent après nous, aux enfants qui grandissent aujourd'hui ? Je renouvelle mon appel à répondre à la crise écologique. La clameur de la terre, la clameur des pauvres ne peuvent pas durer plus longtemps. Prenons soin de la création dont de notre Dieu et créateur. Nous souvenons-nous de cette semaine consacrée au jubilé de l'encyclique qui se déroulait du 16 au 24 mai dernier? Avons-nous connaissance de la saison création qui se termine le 4 octobre prochain? Peut-être pas. En effet, les événements exceptionnels de ces derniers temps nous bousculent et monopolisent la presse. Un arbre qui tombe fait plus de bruit qu'une forêt qui pousse. Mais si l'inquiétude nous enserre lorsque l'arbre tombe, n'ayons pas peur de voir ces jeunes pousses qui grandissent et se fortifient. Le constat que tout est lié, martelé par François, est devenu patent. Un virus inconnu et sévissant dans un coin reculé de Chine a affecté la planète en quelques semaines. Le sentiment latent que l'Europe ne pouvait guère être concernée a été balayé avec une violence à la mesure du déni des premiers temps. La découverte libre du monde, rendue sans cesse plus facile par l'estompement des frontières, s'est arrêtée. Ainsi, chaque pays a recréé ses frontières pour des raisons sanitaires. Voilà donc l'humanité au pied du mur. Le pape François déclarait le 27 mars dernier, lors d'un émouvant temps de prière à la place Saint-Pierre, je cite, « Nous avons avancé à toute vitesse, en nous sentant forts et capables de tout, avides de profit. Nous nous sommes laissés absorber par les choses, étourdir par la hâte. Et nous n'avons pas pris conscience des guerres et des injustices planétaires. Nous n'avons pas écouté le cri des pauvres et de notre planète gravement malade. Nous avons continué sans nous décourager, pensant que nous resterions toujours en bonne santé dans un monde malade. » Fin de citation. Le réveil est brutal et François choisit de faire du kairos de la crise sanitaire une opportunité pour transposer Laudato si dans la durée. Au moment où la pandémie semble recommencer, l'on se demande volontiers ce qui arrivera après. L'année 2020 sera-t-elle une parenthèse avec un retour à la normale ? Ou la crise sanitaire fera-t-elle bouger les lignes en provoquant une prise de conscience durable d'une nécessaire écologie intégrale? Depuis des mois, le monde scrute les chiffres de la pandémie, parfois jusqu'à l'obsession, face à un danger ressenti comme proche. Mais ces chiffres, s'ils peuvent donner froid dans le dos, sont l'arbre qui cache la forêt des causes de mortalité. La malnutrition ou la pollution, les dérèglements climatiques, les inégalités planétaires tuent chaque jour davantage. Pour contrer ces dérives, les programmes internationaux ambitieux ne suffisent plus. Une conversion écologique globale de tous doit aussi et surtout soutenir un développement durable. On ne peut faire l'économie de nos petits gestes. François ne cesse de rappeler que l'humanité doit repartir du réel, de la nature comme norme. La multiplication d'expériences fécondes à travers des projets novateurs et des réseaux solidaires peut faire bouger les lignes. Il invite toutes les bonnes volontés à se déployer pour remplir sa ligne de route de 7 ans. Les familles, premier maillage de la société, sont citées en premier lieu, mais également des vecteurs de transmission comme les écoles, les universités, les radios, les diocèses, les ordres religieux, et les mondes des hôpitaux, de l'agriculture également. Globalement, il privilégie le secteur non marchand, ce pont entre les pouvoirs publics et les entreprises. Je cite « L'urgence de la situation est telle que des réponses immédiates, holistiques et unifiées sont nécessaires, et ce à tous les niveaux », explique le dicastère pour le développement intégral. Pour y arriver, ce dernier souhaite créer, je cite, « un mouvement populaire partant de la base et une alliance entre toutes les personnes de bonne volonté ». Ce sont ces mouvements populaires que nous souhaitons initier par l'initiative de l'étude de cette encyclique et confronter avec vous grâce à la magie du direct. En guise de conclusion, je laisserai la parole au pape François qui nous confie 3 mots en référence à ce texte fondateur. Le premier mot est « doxologie », qui est une formule de louange à la Sainte Trinité. Je cite « Face au bien de la création et surtout face au bien de l'homme qui est le sommet de la création, mais aussi son gardien, il est nécessaire d'adopter une attitude de louange. Face à tant de beauté, avec un émerveillement renouvelé, avec des yeux d'enfant, nous devons être capables d'apprécier la beauté dont nous sommes entourés et dont l'homme aussi est tissé. La louange est le fruit de la contemplation. La contemplation et la louange conduisent au respect. Le respect devient alors quasiment vénération face au bien de la création et de son créateur. Le deuxième mot est Eucharistie. Je cite « L'attitude eucharistique face au monde et à ses habitants permet de saisir la condition de don que tout être vivant porte en soi. Toute chose nous est remise gratuitement, non pour être pillée et phagocytée, mais pour devenir à son tour don à partager pour que la joie soit pour tous et soit plus grande. » Le troisième mot est ascèse. Je cite « Toute forme de respect naît d'une attitude ascétique, c'est-à-dire de la capacité de savoir renoncer à quelque chose pour un bien plus grand, pour le bien des autres. » L'ascèse nous aide à nous convertir de notre attitude de prédateur pour assumer la forme de partage de la relation écologique, respectueuse et courtoise. Je vous propose, avant de vous laisser la parole, de prier l'Esprit-Saint et de réciter la prière proposée par le Saint-Père en cette année Laudato Si 2020-2021. Dieu bien-aimé, Créateur du ciel, de la terre et de tout ce qui s'y trouve, ouvrez nos esprits, touchez nos cœurs, pour que nous puissions faire partie de la création de votre don. Soyez présents auprès des personnes dans le besoin en ces temps difficiles, en particulier les plus pauvres, les plus vulnérables. Aidez-nous à faire preuve d'une solidarité créative dans la gestion des conséquences de cette pandémie. Rendez-nous courageux pour embrasser les changements qui s'annoncent à la recherche du bien commun. Faites que nous puissions écouter et répondre aux cris de la terre et aux cris des pauvres. Puissent les souffrances actuelles être les douleurs de l'accouchement d'un monde plus fraternel et plus durable. Sous le regard aimant de Marie Auxiliatrice, nous vous prions par le Christ notre Seigneur. Amen.
Alors, le pape François a vu dans la crise sanitaire actuelle une opportunité pour l'application de la mise en œuvre de la haute autocie. C'est vrai que quand on voit un petit peu ce qui se passe depuis quelques mois, on aurait plutôt tendance à se décourager. Alors, je vais prendre des exemples concrets, les masques jetables qui sont jetés dans la rue comme ça, et non pas à la poubelle, les gens qui se sont mis à consommer en masse sur Internet comme si l'achat d'un jean ne pouvait pas attendre la fin du déconfinement. Bon, on a tous des exemples qui nous viennent à l'esprit. Quelles sont les raisons de ne pas se décourager, justement?
C'est une très bonne question que je me pose chaque jour. Je n'ai pas la réponse, mais la seule phrase qui me vient à l'esprit, c'est « espérer contre toute désespérance ». Espérons que cette crise nous fasse progresser, même si l'accouchement est dur. Et c'est les propos que nous proposait le pape François dans sa prière. « Puissent les souffrances actuelles être les douleurs de l'accouchement d'un monde plus fraternel et plus durable, dont chaque crise, il y a des pleurs et des grincements de dents. » N'ayons pas peur de ces pleurs et des grincements de dents, sachant que malheureusement, ces pleurs et ces grincements de dents, ce sont les plus pauvres, les plus fragiles qui vont les subir en premier. Donc je pense que ne regardons pas ces difficultés, mais un pas après l'autre, posons un acte concret pour porter une petite pierre à ce grand édifice de la maison commune à rebâtir.
Alors, est-ce que vous pouvez nous parler du groupe dont vous faites partie, donc la Dot aussi en action? Quelle est votre mission et quelles sont les actions que vous menez?
Alors, c'est un groupe diocésain donc, qui a été à l'initiative de Mgr Rey, qui regroupe des laïcs qui sont engagés dans l'économie circulaire et qui se veulent être finalement des catalyseurs pour initier des groupes paroissiaux, finalement, dans tout le diocèse du Var. Donc, c'est un groupe pilote, entre guillemets, qui a vocation à essaimer pour faire des micro-groupes Laudato aussi, au sein de groupes de paroisses, dans les écoles et au travail, etc. Ce groupe est constitué donc, de laïcs, et c'est le père Claude Sirvent, donc un prêtre qui est à la tête de ce groupe et qui l'anime.
Alors, est-ce que ça rejoint une autre initiative, me semble-t-il, qui s'appelle Église Verte?
C'est tout à fait en lien. L'Église Verte, donc, c'est un label national qui a pour vocation à reverdir l'Église. Les groupes Laudato aussi sont des petits groupes de réflexion, de partage, de travaux concrets qui aboutissent in fine à Église Verte. Donc c'est vraiment, ce sont deux initiatives qui se complètent et qui, au bout d'un moment, fusionnent naturellement.
Donc le but, c'est d'apporter peut-être des réponses à des questions que peuvent se poser les curés de paroisse et les équipes paroissiales. Et à l'inverse, si les équipes paroissiales, enfin si les paroisses ont mis en œuvre certaines choses pour l'écologie, vous en faire part pour peut-être le partager à d'autres.
Tout à fait. C'est un petit groupe qu'on pourrait qualifier de caillou dans une chaussure qui empêche de marcher, de tourner en rond. C'est un petit groupe qui essaye d'alerter sur l'écologie intégrale. Ensuite, la deuxième chose, c'est d'aider à faire du concret, de travailler concrètement à restaurer la maison commune. Et troisièmement, qui est aussi là pour prier pour que le Christ soit au centre de cette conversion écologique, pour que ça ne devienne pas une idéologie, ce qui peut être le risque.
Est-ce que vous encouragez tout un chacun, donc les paroissiens, aller voir leur curé de paroisse pour dire, mais là, il faut faire quelque chose. Est-ce qu'il faut oser aller voir son curé pour lui proposer des améliorations?
Tout à fait. Le curé, lui, ne peut pas être à la tête de ces groupes parce qu'il a tant de choses à faire. En revanche, c'est l'affaire de tous et les laïcs, en premier lieu, sont désignés pour faire partie non seulement de ces groupes, mais pour en former d'autres. Mais on parle des paroisses, mais c'est ce qui se passe à l'instar des familles, des entreprises. C'est finalement une demande expresse du pape François de faire à notre humble mesure des choses, soit via les groupes Laudato aussi, mais via d'autres groupes que l'on peut porter dans d'autres milieux.
Alors, il nous reste 2 ou 3 petites minutes. Est-ce que vous souhaitez ajouter quelque chose par rapport à notre thème d'aujourd'hui?
Oui, je souhaitais dire que la plus grande difficulté de la conversion écologique, finalement, c'est de ne pas avoir peur de se lancer et de ne pas avoir peur du jugement. C'est vrai que lorsque l'on parle d'écologie, il y a toujours ce risque donc de l'idéologie et du jugement. N'ayons pas peur d'essayer et surtout de retomber dans nos traverses, de nos travers. N'ayons pas peur de ne pas y arriver. Le simple fait de recommencer et repartir, c'est déjà une victoire. L'écologie, l'encyclique peut paraître un monstre, une planète entière à restaurer. Commençons déjà par balayer devant notre porte, et ces petits pas, comme disait Mère Teresa, une goutte plus une goutte, finalement, ça forme un océan. Donc, c'est pas dramatique, le plus difficile, c'est de commencer.
Alors, nous venons de recevoir un SMS. Bonjour, merci pour ce bel enseignement. Avez-vous un site internet pour mieux connaître votre groupe? Et deuxième question, peut-on réussir dans la lutte pour l'écologie dans la durée, dans une société où la foi souffre aussi? Jésus dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Merci, soyez bénis. Voilà, c'est un auditeur ou une auditrice qui n'a pas signé. Également, une autre question arrivée par SMS. Bonjour, l'Église catholique a rejeté la célébration du sabbat qui représente la contemplation de Dieu sur sa création. Ne serait-il pas bienvenu de le retrouver? C'est signé Michael.
Alors, pour la première question, pour chaque normalement diocèse a un groupe Laudato si', et s'il n'en a pas, eh bien, il faut se rapprocher de son évêque pour en créer un. Hein. Donc, la meilleure des choses à faire, c'est de se renseigner directement sur le site de votre diocèse concerné. Ensuite, on est chrétien, donc on a l'espérance chevillée au corps, donc on pense qu'on y arrivera et que le plus important, c'est que le Christ revienne et que ce n'est pas notre propre vie qui est importante. Quant à la troisième question de Michael, j'ignorais ce point. En revanche, je trouve que l'Église a fort à faire en ce qui concerne la célébration du Dieu créateur. Mais je pense, je crois d'ailleurs qu'avec le pape, les choses vont bouger. Et on le voit, c'est inscrit dans une longue lignée des papes de nos prédécesseurs, enfin des prédécesseurs du pape François.
Eh bien, merci beaucoup Emmanuel pour ce temps que vous nous avez accordé et à bientôt pour une nouvelle émission.
Merci.
Au revoir.